Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bonjour, auditeurices de Nantes ou d'ailleurs. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits de l'homme, section nantaise. La LDH a été il y a peu secouée par des remises en cause de son fonctionnement. Remise en cause à tel point que le ministre de l'Intérieur a évoqué la possible coupe des subventions de la LDH. Loin de le désavouer, notre première ministre a ajouté ne plus comprendre les choix de la LDH. Face à ces allégations, deux possibilités s'offrent à nous. Soit la LDH s'est salement fourvoyée, soit M. Darmanin et Mme Borne se trompent. Avec l'aide de Romuald, Barbara et Marc, nous allons essayer de comprendre, sur la base des faits, ce qu'est la LDH, ce qu'elle entreprend et si les reproches qui lui sont faits sont justes. Puis nous profiterons de la présence en nombre de nouvelles et nouveaux adhérents pour leur demander la raison de ce choix récent. Pour aller les rejoindre, nous allons devoir quitter le bureau prêté par la mairie de Nantes à la Ligue des droits de l'homme. Ce bureau sert à la LDH pour ses réunions de fonctionnement, pour accueillir les bénévoles et aussi pour que les groupes travaillant avec les personnes à la rue, les migrants, les Roms, les femmes et les enfants victimes de violences puissent être accueillis ainsi que toutes les personnes qui sollicitent la LDH. Et pour se lancer dans cette nouvelle chronique, nous allons retrouver Romuald à côté du palais de justice. C'est parti. Je viens de rejoindre Romuald, ligueur de la LDH Nantes, juste à côté du tribunal de justice où la LDH va régulièrement poser et défendre des recours. Quel est le point de départ des récentes accusations de Gérald Darmanin soutenues par Elisabeth Borne ?
Il semblerait que ce soit donc ce que l'Inter-Observatoire à Sainte-Soline a pu dire des agissements de la police et notamment de l'empêchement des secours pour venir soigner les blessés. Donc le fait que la LDH dénonce encore une fois les violences policières et une sorte de non-assistance à personne en danger n'a apparemment pas plu à M. Darmanin et au gouvernement.
Est-ce que c'est la première fois que la LDH est inquiétée ?
Dans des termes aussi forts, à part la période vichiste où on a été dissous et interdit, c'est la première fois, il me semble.
Vous venez de parler de l'Observatoire des libertés. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ?
Alors, j'essaie de faire un petit historique au niveau local. Donc, en 94 et 95, au moment de l'oublié mouvement anti-CIP et 95 contre les mouvements des retraites du gouvernement Chirac, il y a eu donc des violences policières qui ont fait que certaines personnes ont été arrêtées de façon arbitraire, d'autres blessées. Et donc à l'époque, la LDH avait fait, avec enquête et témoignage, un rapport sur le mouvement, sur les actions de la police. Et suite à cela, la LDH a demandé avec d'autres partenaires s'il n'était pas nécessaire de continuer la vigilance, parce que bon, deux années de suite, quand même, des mouvements très forts réprimés par les autorités, eh bien, on a proposé la création, et donc il s'est créé l'Observatoire Nantais des Libertés. Vu qu'il ne s'est plus rien passé, c'est redevenu assez calme sur Nantes pendant des années, l'Observatoire est mort. Et en 2015, suite à l'état d'urgence, s'est créé un collectif de suivi de l'état d'urgence. Deux ans après, je crois, vu qu'il y a eu pas mal de mesures anti-terroristes qui sont entrées dans la loi normale, c'est à nouveau créé l'Observatoire Nantais des Libertés, recréé, notamment par rapport à ce qui s'est passé dans les manifestations contre l'aéroport de Nantes, de Notre-Dame-des-Landes.
L'Observatoire des Libertés est-il national ou local ?
L'Observatoire Nantais des Libertés est local, mais depuis quelques années, on a vu émerger à Paris, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, une dizaine ou une quinzaine d'observatoires. Il s'est mis en place au niveau national une sorte de coordination des rencontres inter-observatoires pour partager les compétences, les connaissances et les pratiques. Et c'est justement suite à une réunion nationale à Paris avant Sainte-Soline que s'est décidé pour la première fois l'intervention d'une sorte d'inter-observatoire où 5-6 observatoires étaient présents, ont pu dégager donc des bénévoles pour être présents, donc 22 ou 23 personnes à Sainte-Soline, ce qui a pu permettre donc à cet inter-observatoire de noter que les secours n'intervenaient pas, alors qu'à l'endroit où se trouvaient les blessés, il n'y avait plus aucune violence, et il ne se passait plus rien.
L'Observatoire des libertés, qu'il soit local, national ou inter-observatoire, a pour but d'observer seulement les actions policières ou des deux côtés, les actions policières et les actions des manifestants et manifestantes.
La plupart des observatoires ont un point commun, c'est l'observation des manifestations, mais sous un angle très particulier, c'est celui de la défense des droits. Des droits que sont les droits de manifester, de s'exprimer. Donc on n'est pas là pour constater les violences des manifestants des forces de police. Nous, on est là pour dénoncer les abus potentiels qu'un maintien de l'ordre tel qu'il est conçu actuellement peut être amené à faire comme abus et restrictions des libertés.
Nous allons maintenant aller rejoindre Élodie et le gros de la section nantaise dans un restaurant du centre. Nous en profiterons pour aller à la rencontre des nouvelles et nouveaux adhérents, ainsi que pour poursuivre notre investigation. Nous y sommes. Et voilà que Barbara est disponible. Je laisse Élodie prendre les rênes.
Pouvez-vous nous expliquer quels sont les financements de la Ligue des droits de l'homme 44 ?
Alors, les financements sont composés essentiellement des cotisations, des adhésions de nos adhérents. Pour à peu près 60% du budget de la section. D'ailleurs, c'est la même chose au niveau national. Et puis nous avons aussi une partie de nos financements qui viennent des mairies, de nombreuses mairies qui font le choix de nous soutenir, parfois de très petites collectivités. Et nous apprécions énormément le soutien qu'elles nous apportent. Donc nous avons environ une vingtaine de collectivités qui nous soutiennent au niveau local. Et dans une toute petite mesure, l'État nous octroie à peu près 10% de nos subventions.
Quel est son cahier des charges ?
Alors nous demandons des subventions de fonctionnement, essentiellement. On suit notre projet associatif, qu'on revivifie tous les ans en Assemblée Générale, et pour ça, on demande des subventions au titre du fonctionnement de la section de manière globale.
Quelles sont les actions de la Ligue des droits de l'homme dans le département ?
Toutes les actions de la Ligue des droits de l'homme sont généralistes. Alors, ça donne beaucoup, beaucoup de choses très diverses qu'on a essayé de classer en trois gros chapitres. Le premier étant les actions de défense des droits sociaux. Nous faisons l'allié de tous les collectifs qui défendent le droit au logement, le droit à la santé, le droit aux personnes étrangères, le droit des personnes étrangères à obtenir une situation. Donc ça, c'est un premier chapitre important. Il y a un deuxième chapitre qui est celui des luttes pour les libertés et contre les idées des extrêmes droites. Un autre type d'action avec des partenaires un petit peu différents parfois. Et on a un troisième chapitre qu'on a appelé Solidarité internationale et qui est très large aussi, qui va du soutien au peuple palestinien à ce qui concerne l'écologie, parce qu'on estime que l'écologie ne s'arrête pas aux frontières et on met là-dedans aussi tous nos soutiens aux luttes écologiques.
Avez-vous appelé à la manifestation à Sainte-Soline alors qu'elle était interdite ?
Alors là, on n'a pas appelé à manifester à Sainte-Soline. Nous étions présents, près de Sainte-Soline, dans le village associatif où il était question de débattre sur la pertinence des combats écologiques et sur le droit à manifester. Et nous soutenons, nous, à la LDH, tout particulièrement les militants écologiques qui sont bien souvent discriminés dans leurs actions.
Donc la LDH n'a pas appelé à manifester à Sainte-Soline dès lors que la manifestation était interdite. Soit, mais pourquoi a-t-elle attaqué l'arrêté de la préfète qui empêchait le transport d'armes ?
On a attaqué cet arrêté parce que, en l'occurrence, les armes qui sont pointés sont des objets tout à fait anodins. Une cuillère ou une casserole, pourquoi pas, on en parle ces temps-ci, peuvent être considérés comme des armes par destination. C'est une manière détournée, en fait, d'interdire ou de limiter drastiquement le droit à manifester. Et c'est pour ça que nous avons attaqué cet arrêté.
Donc la LDH n'a pas appelé à manifester dès lors que la manifestation était interdite. Elle n'a pas non plus favorisé le transport d'armes, soit. Et pourquoi a-t-elle dépêché des observateurs et observatrices illégitimes puisque le tribunal administratif de Poitiers lui-même ne leur en a pas donné le statut ?
Le tribunal administratif n'a pas à nous donner le statut d'observateur. Le statut d'observateur, il existe. Il existe au niveau du droit international. Il a été reconnu aussi par le Conseil d'État lors d'un avis sur le schéma national du maintien de l'ordre. Et les observateurs sont des observateurs citoyens. Et nous sommes des observateurs citoyens qui avons le droit d'être dans les manifestations et d'observer les manifestations. Lorsque le Conseil d'État a émis son avis, il a dit clairement qu'on pouvait être assimilé dans ce cas-là au même statut que les journalistes, c'est-à-dire que avoir le droit d'être dans la manifestation même lorsqu'il y avait eu des sommations demandant à l'ensemble des manifestants de s'éloigner.
On a beaucoup entendu Darmanin et Borne critiquer les ambiguïtés face à l'islamisme radical de la Ligue des droits de l'homme. Que leur répondriez-vous ?
Tous les politiques savent pertinemment que nous défendons les droits des personnes, notamment des personnes présentes en France, mais comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, y compris des peuples étrangers. Et surtout, nous luttons contre les discriminations, contre toute minorité, qu'elle soit religieuse, sexuelle ou autre. Voilà. Donc ça, il est évident, tout le monde sait que la Ligue des droits de l'homme a son fonds de commerce, en quelque sorte, dans la défense des droits des gens. Alors quand le fait de nous accuser de soutenir un islamisme radical, c'est simplement détourner finalement un propos qui consisterait à voir dans le progressisme une faiblesse. Voilà. Et la faiblesse, en l'occurrence, qui est pointée, ce serait d'ouvrir la porte, sous couvert de défendre les droits des gens, à des personnes dangereuses. Évidemment que la LDH n'a jamais soutenu, mais non seulement pas soutenu, mais s'oppose très fermement aux idées liberticides que véhicule l'islamisme radical.
Lorsqu'il y a eu les menaces de coupe de subventions de la Ligue des droits de l'homme, comment avez-vous réagi ?
J'ai été très très inquiète, bien sûr, parce que cette menace émanant d'un ministre de l'Intérieur et en plus suivie par la Première ministre introduisent un soupçon. C'est quelque chose qu'on avait déjà condamné dans la loi précédente contre les séparatismes, loi confortant les principes de la République, qui fait peser sur les associations l'obligation de signer un contrat d'engagement républicain. Là aussi, dans les termes, c'est pas quelque chose qui semble très dangereux ou très grave, mais en réalité, s'exerce sur le monde associatif une menace, quelque chose qui tend à fragiliser avant tout les associations plus jeunes. Et donc, finalement, le mouvement citoyen et les contre-pouvoirs de la République en général. On est un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir pratique. Un contre-pouvoir qui veut mettre en action vraiment une démocratie au service de tous. Je crains qu'elle n'effraie d'autres militants et d'autres citoyens qui souhaiteraient se lever et lutter contre les discriminations en général.
Élodie, si nous voulons rencontrer les adhérents, c'est le moment.
Pourquoi avez-vous choisi d'adhérer à la Ligue des droits de l'homme ?
J'ai adhéré parce que je suis sensible à la cause des violences en général qui sont faites aux hommes, aux femmes, à l'être humain en général. Et j'ai du temps, donc je voulais absolument participer à quelque chose qui me paraît pouvoir faire avancer un peu le droit des hommes en général, des femmes. Voilà.
Donc moi j'ai 16 ans et en fait j'ai découvert la Ligue des droits de l'homme grâce à une intervention dans mon lycée. Et ce qui m'a donné envie d'adhérer principalement, c'est qu'aujourd'hui, en tant que jeune, c'est pas forcément facile de savoir par où commencer. Moi, personnellement, je suis intéressée à plein de combats. Et du coup, je trouve que c'est bien parce que ça permet d'aller vers plein de sujets différents et tout en restant aussi non politisé. Parce qu'à 16 ans, on n'a pas forcément envie de s'engager trop dans la politique pour l'instant. Mais ça permet quand même de lutter pour essayer de changer les choses au moins un peu.
J'ai décidé d'adhérer à la Ligue des droits de l'homme parce que Gérald m'a mis un coup de pied aux fesses, déjà, première chose. Mais en réalité, ça faisait un moment que j'avais cette idée-là en tête et que je me trouvais toujours des fausses excuses. Et parce que j'ai pas envie que mes enfants vivent dans un monde comme celui que nos politiques actuelles nous préparent.
Pour commencer, la Ligue des droits de l'homme est une assoce que je suis déjà depuis pas mal d'années. Ça me tentait pas mal, mais là, il y a eu un déclencheur. Le déclencheur, ça a été évidemment les propos de Darmanin, pardon, de Monsieur Darmanin, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et puis, lui et son boss, bah, j'ai bien eu envie de les emmerder, moi aussi, comme eux ont décidé de nous emmerder il y a quelques mois.
Nous voilà à la fin de notre chronique. Un grand merci à Romuald, Barbara, Marc, ainsi qu'aux nouveaux arrivants au sein de la LDH section Nantes. Nous vous retrouverons le mardi 20 juin à 9h sur les ondes de Jet FM pour une chronique surprise. D'ici là, si vous avez des questions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-france.org. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une belle journée au pays des droits et des libertés.
Naîtront libres.